parole du jour avec le Père Willem.
Étrange christianisme, je suis la vérité. Cette phrase échappe à tous les modes de pensée de la philosophie occidentale. Jésus, qui est la parole, parle en effet et n'écrit pas. Tout ce qu'il dit procède d'une situation particulière et d'un moment vécu. Et que de livres bibliques commencèrent par être dits et se destinèrent, comme des psaumes, à être dits et chantés ou recueillis des paroles d'un orateur, comme l'Ecclésiaste, ou supposant un dialogue, comme Job, ou le Cantique des Cantiques. La Bible nous engage constamment à écouter, à devenir sensible aux manières d'écrire, aux images qui ne résonnent pas, et idéalement à la musique de la pensée. Il est vrai que la plupart d'entre nous n'avons pas accès aux textes originaux, mais cela n'était-il pas prévu? Il existe des moyens de comprendre, même à distance, comment fonctionnent l'hébreu et le grec, et il nous appartient de chercher dans une simple traduction, à condition qu'elle soit poétiquement fidèle, l'animation de la parole, la voix et la vie de la vérité. La lecture de la Bible est une expérience poétique. Elle ne nous offre une théologie que selon le sens étymologique du mot, une parole concernant Dieu, car la Bible, qui nous place devant autre chose, est elle-même autre. Avons-nous bien saisi en Europe la nature du christianisme? N'avons-nous pas assimilé à nos catégories de pensée et à nos habitudes de lecture une religion qui nous vient du Moyen-Orient? Ses origines juives ne signifient nullement qu'elle n'est pas d'une portée universelle, mais elle ne doit pas être négligée. Dieu choisit de se révéler d'abord par un peuple qui avait, siècle après siècle, ses façons de penser et d'écrire, et la religion qu'il a transmise porte les marques de cette lente et complexe genèse. La Bible nous demande de reconnaître l'étrangeté. Oui, l'étrangeté du christianisme est de remettre en question notre manière européenne de l'aborder. Recouvrer ce christianisme qui vient d'ailleurs modifierait notre lecture de la Bible et sans doute la manière d'annoncer l'Évangile à notre temps. Ce que nous proposons n'a rien à voir avec la tendance dans une civilisation dite post-chrétienne de présenter la Bible comme un trésor littéraire, une œuvre dont la force et l'autorité viendraient du génie de leurs auteurs et que l'on peut offrir à l'admiration du lecteur. Il ne s'agit pas non plus de prendre, disons, la perspective d'une grande vision poétique du christianisme qui écarterait tout ce qui pourrait gêner dans la Bible, comme le péché, la rédemption ou la résurrection. Ce serait aussi mal inspiré que ce mouvement au XIXe siècle, qui s'efforçait de remplacer Jésus en tant que fils de Dieu et présence dans la vie des siens, par Jésus, le grand exemple moral, dépouillé de toute son œuvre et purement humain, ne risquant pas de s'immiscer dans nos affaires. Une lecture poétique de la Bible n'implique ni une démission de la raison, mais il faut savoir où et comment raisonner, ni une sorte de quiétisme littéraire où l'on serait absorbé par la méditation des textes au point de négliger de vivre en conformité avec ce qu'ils disent. Elle invite simplement à redécouvrir le christianisme là où il se trouve et comme il se présente. Comment parler de Dieu? Pour le faire, certains passages de la Bible emploie des adjectifs négatifs en évoquant le Dieu incorruptible, comme Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 1er, ou le Dieu invisible dans Colossiens chapitre 1er, et semble donner raison aux partisans de la théologie négative. Ne conforte-t-il pas la thèse selon laquelle Dieu se trouvant au-delà de la portée de nos catégories, nous pourrions affirmer non pas ce qu'il est, mais seulement ce qu'il n'est pas. Il est toutefois regrettable de transformer cette perception de l'étrangeté de Dieu en un système, en oubliant que le Dieu de la Bible qui nous aime ne ressemble en rien à la source de cette théologie. L'un de Parménide, de Platon, inconnaissable et ineffable, et qu'il ne nous appartient pas de décider quel langage convient pour parler d'un Dieu qui s'est lui-même révélé. La Bible affirme par la bouche de Jésus que Dieu est bon et que Dieu est vrai. Jean, l'évangéliste, utilisant sans se troubler le moi du monde, le verbe être. À nous de réfléchir sur ces affirmations en méditant combien la bonté, la vérité et l'être de Dieu sont infiniment éloignés de nos pauvres conceptions. Dans la révélation que Dieu est amour, nous saisissons qu'en Dieu l'amour et l'être se confondent et que notre tâche est existentielle, oui, une tâche existentielle, plutôt que métaphysique. Essayer de vivre de telle sorte qu'à notre niveau également, être et aimer se rapprochent et se joignent. D'autres déclarations sont poétiques et font appel à l'imagination. Exemple, Dieu est lumière, dans la première lettre de Jean, chapitre 1er. Si nous cherchons à expliquer ces quelques mots en les paraphrasant, nous perdons leur éclatante simplicité. Tout ce que dit la Bible à propos de Dieu est saint. Oui, c'est simple, bref, et sans jargon, comme pour suggérer que l'immensité incommensurable du Créateur culmine dans une concentration de puissance infinie. Nous perdons surtout l'occasion de sonder cette lumière qui, sans être celle du soleil, des étoiles, de l'éclair ou du feu, nous invite à songer à ces présences lointaines et proches en tant que figure de la lumière réelle. Nous perdons aussi la possibilité d'approfondir en même temps Dieu et la lumière en étudiant l'étrange union que leur mise en relation suppose. Lorsque Étienne, au début des Actes des Apôtres, évoque au début de son discours devant le Sanhédrin le Dieu de gloire, dans les Actes chapitre 7, il rappelle de nombreux passages de l'Ancien Testament qui faisaient dérouler dans l'histoire cette image d'une splendeur en Dieu, d'un rayonnement singulier qui nous délivre de la pensée. Étienne affirme également que la gloire de Dieu apparut à Abraham ayant cessé de parler. Alors, il vit lui-même, dit le texte, la gloire de Dieu. La gloire, c'est-à-dire une présence. L'altérité de cette lumière divine n'est pas telle qu'un rayon adapté à notre esprit. Cette lumière nous illumine du dedans et nous donne le goût de la vie. Rappelons-nous, en disant à la Samaritaine que Dieu est esprit, Jésus semble mettre fin à toute discussion en prescrivant de l'adorer en esprit et en vérité. Il nous encourage à pénétrer ce mot extraordinaire, à nous approcher de Dieu en cherchant la manière d'être, oui, c'est la bonne manière d'être qui par miracle nous relie à lui. S'il faut ajouter quelque chose, le plus utile serait de revenir au fait bien connu que le mot grec pour esprit, ainsi que le mot hébreu donne à la fois esprit, vent et souffle. Ces trois mots, c'est tout ce que donne le mot esprit. Esprit, vent, souffle, ce qui nous élève, nous environne et nous touche d'une main invisible et nous habite et nous fait vivre.